Bah, je vais commencer déjà rapidement à me présenter. Moi, je suis historien de formation. J'ai, comme plusieurs ici, donc je suis universitaire au départ, même si aujourd'hui, j'ai pas de statut ni quoi que ce soit. Mais j'ai fait une thèse en histoire que j'ai terminée l'année dernière. Et précisément sur l'histoire des squats. Mais je me suis intéressé aux squats vraiment comme mode d'action. Donc, pour ça, j'ai utilisé le terme de squattage, ce qui me permettait en fait d'englober vraiment la pratique du squat. Qu'est-ce que ça impliquait, qui ça impliquait, et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en fait dans tout ce qui se rapporte au phénomène des squats. Et en termes d'analyse de terrain, j'ai comparé l'histoire du squattage ou des squattages à Paris et à Berlin-Ouest entre 1945 et 1985. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Vous pouvez après peut-être après la présentation, on pourra en discuter si pour ceux que ça intéresse. Mais donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à m'intéresser à un groupe dont je vais parler aujourd'hui. Je suis vraiment pas un expert informatique et j'ai travaillé. Rien ne se passe comme je l'ai prévu pour cette présentation aujourd'hui. J'ai travaillé sur trois ordinateurs différents, donc il y a des trucs que j'avais prévu de montrer aujourd'hui qui ne vont pas marcher. Alors l'intitulé de ma présentation, c'est virgule vol, virgule violence au pluriel, le spectre des vilains, avec un sous-titre Discours et activités autour des squats de Belleville vers 1981. Donc la première fois que je me suis intéressé au groupe des vilains, je vais expliquer après en détail pourquoi ils s'appellent comme ça, etc. C'était dans le, je devais en fait réfléchir en fait aux manières dont les squatteurs s'impliquent, quels usages ils font en fait de la ville, de l'espace, etc. Quelles représentations sont associées au phénomène général des squats? Et qu'est-ce qu'on projette en fait quand on réfléchit à qui sont les squatteurs, qu'est-ce qu'un squat, qu'est-ce que ça implique en fait en tant que pratique et aussi en tant que quelque chose de visuel, de tangible. Je voulais vraiment faire une étude de cas pour c'était aussi une communication un peu similaire à ça, moins alternative. Et du coup, se poser en tant qu'historien la question des archives. À partir de quel matériau on va pouvoir travailler pour faire vraiment une étude de cas très spécifique. Et puis en consultant un peu ce que j'avais déjà réussi à récolter dans le cadre de mon travail, je suis tombé sur le groupe des vilains. J'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais jamais vraiment fait la démarche de synthétiser un peu tout ce que je pouvais savoir sur un groupe spécifique, puisque je m'intéressais donc à une chronologie assez large et surtout dans un mode de comparaison. Et il y a une phrase en fait que j'ai trouvée dans les archives qui a été utilisée donc par le groupe des vilains qui résumait en fait à elle seule un peu ce que je voulais montrer. C'est du local sur le quartier à l'international. Et donc c'est une démarche que je trouvais intéressante pour ce groupe-là. C'est-à-dire qu'ils avaient une démarche, en tout cas c'est cette démarche-là qu'ils donnent. Pour un historien comme moi, j'ai eu l'impression que ce groupe avait la particularité en fait d'avoir non seulement un ancrage spécifique dans la rue Vilain, dans le quartier de Belleville, à l'échelle locale à Paris, au début des années 80, et surtout qu'ils ont envisagé de l'internationaliser dans le cadre du mouvement ou des mouvements squatteurs tels qu'ils existaient. Donc j'ai croisé plusieurs sources, j'ai cherché le plus de choses possibles que je pouvais trouver. Et donc voilà. Alors juste pour les vilains, ça c'est un graphe. Ça c'était écrit en fait sur un des bâtiments qu'ils occupaient. Et donc ils habitaient, ils ont squatté plusieurs bâtiments dans la rue Vilain, qui est à Belleville. Vilain qui s'écrit Villin. Et donc on voit à côté le logo international des squatteurs qui apparaît, d'après mes recherches, dans les années 70 à Amsterdam et qui serait importé en fait d'un signe logo des hobos aux États-Unis au début du fin 19e et début 20e. Je vais montrer un petit extrait vidéo. Quand je cherche des informations sur la rue Vilain, comme n'importe qui, on peut aller sur Internet, on va taper Vilain, et on trouve par exemple ça.
Comment raconter? Comment regarder? Comment reconnaître ce lieu? Restituer ce qu'il fut? Comment
je
ne
peux pas
mettre
plus fort à mon côté.
Comment saisir ce qui n'est pas montré, ce qui d'abord a été photographié, archivé, restauré, mis en scène. Comment retrouver ce qui était plat, banal, quotidien, ce qui était ordinaire, ce qui se passait tous les jours.
On pourrait commencer comme cela. C'était une petite rue de Ménilmontant à Paris, dans le 20e arrondissement. Elle faisait 243 mètres de long et 8 mètres de large. Elle commençait à la hauteur du 29 rue des Couronnes et en esquissant vaguement la forme d'un S inversé, montait jusqu'à des escaliers qui menaient à la rue Piat au numéro 21.
Là, je vous ai tout de suite ramené dans l'histoire. Et donc, on a parlé jusqu'à maintenant de la violence, qu'est-ce que pouvait être la violence, on a parlé des corps. Et donc, moi, je territorialise ces corps et je vous ramène donc en arrière et je vous pose le contexte. En tout cas, le contexte tel que Georges Perec, donc, qui a passé les toutes premières années de son enfance en fait, dans cette rue. Et donc, il y a eu une démarche que j'ai apprise très, très, très récemment, qui a eu une démarche de retour en arrière en fait, et qui a suivi l'évolution de la rue Villain entre 1969 et 1974, je crois. Et en fait, après sa mort, il y a un film documentaire qui a été fait, là, dont je viens de montrer le tout début, qui raconte en fait justement un peu à la fois la démarche de Perec et donc la rue Villain. Donc pour un historien, c'est très intéressant, évidemment, de voir. Juste pour revenir aussi sur ma démarche, en fait, dans le cadre de mon travail, au départ, j'ai renoncé de manière complètement assumée à aller à la rencontre en fait, d'acteurs de l'époque. D'abord parce que, je rappelle, je fais une chronologie assez large de 45 à 85. Et donc, je me disais, si je cherche à interviewer des personnes qui sont prêtes à parler de ce qu'ont pu être les squats dans cette période-là, je vais avoir du mal à trouver des acteurs de toute la période, à Paris et à Berlin, et j'ai du mal aussi à trouver des gens variés, capables d'en parler, parce que ça ne m'intéressait pas. Bien sûr, le point de vue et le discours des squatteurs m'intéressent et m'intéressaient, mais ça m'intéresse aussi de voir qu'est-ce que ça impliquait, donc comment ils sont reçus par le voisinage, notamment, comment ils sont défendus par les assos, comment ils sont perçus et en gros gouvernés par toute l'administration locale et puis aussi toute la répression judiciaire, etc. Donc j'ai fait la démarche plutôt de me baser uniquement sur les traces qu'on pouvait trouver à partir des archives écrites, archives de presse. J'en parlerai tout à l'heure, mais aussi des comptes rendus des renseignements généraux, qui peuvent en apprendre aussi certaines choses. Donc on parlait tout à l'heure de l'identification en tant que punk ou squatter, etc. Donc c'est aussi intéressant de voir le point de vue de l'administration tel qu'il est ressenti là. Et donc le discours des squatteurs, seulement à partir de eux, ce que les squatteurs ont produit eux-mêmes, donc des archives audio, vidéo, et puis écrites, évidemment. Donc, quand moi j'ai réfléchi à la question de la violence pour préparer le truc d'aujourd'hui, c'était évident pour moi qu'il y avait quelque chose, un rapport très fort avec les squatteurs. Et donc, la première violence à laquelle j'ai pensé, c'est le terme de violation. La rue Villain, en fait, il y a beaucoup de gens qui la connaissent, peut-être aussi à partir du film Le Ballon Rouge, c'est un classique en fait, du cinéma. Et donc, l'escalier qu'on voyait à la fin. Là, on... Ah si, ouais, le voyait. Je le vois en noir et blanc, c'est pour ça que je croyais qu'on ne voyait pas le ballon. Donc, le ballon rouge, hein. Peut-être... Ouais. Voilà. C'était juste pour dire que, en fait, la rue Villain, tout le monde la connaît un petit peu, ne serait-ce que par là. Aujourd'hui, la rue Villain, elle ressemble à ça. Alors, il faut savoir, donc, ce qu'on voyait tout à l'heure, la présentation à l'époque de Perec, la rue Villain, en gros, aujourd'hui, elle correspond au numéro de 1 à 14, je crois. Et donc les immeubles, c'est ce qu'on voit à gauche et à droite, et le reste de la rue Villain et donc une grande partie du secteur s'était transformé. C'est avec la création du parc de Belleville. On le voit encore mieux à partir de ce plan-là. Voilà. Donc on voit tout en bas, c'est ce qui reste encore de la rue Villain qui faisait ce S inversé. Voilà. Donc à la fin des années 70, au début des années 80, donc il y a déjà un processus de rénovation de tout le secteur de Belleville qui fait que y a un paquet de logements qui vont être évacués, qui vont être vidés. C'est pas vraiment de la gentrification, en tout cas pas dans ce secteur-là, mais c'est quelque chose qui est classique depuis les années 70 et qui se développe encore aujourd'hui. Hein. Donc c'est aussi de l'expropriation, etc. Et donc il y a de plus en plus d'immeubles qui se vident. Et à cette même époque, donc une coïncidence où l'un appelle l'autre, enfin voilà, on pourrait se poser la question. Évidemment, ça, c'est, en gros, c'est un paradis pour les squatteurs parce que c'est là. À la fois, ça permet d'investir des lieux qui sont déjà vides. Et après, il peut y avoir une démarche politique qui intervient là-dedans, voilà, dans la sauvegarde d'un quartier, ou pas, parce que ça peut être aussi simplement la possibilité de s'installer à un endroit. Tant qu'on a la possibilité de ne pas payer de loyer, parce que ça permet de vivre plus simplement et plus facilement. Et en même temps, donc sur le rapport avec les punks, ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs, et notamment, en 81, commencer à organiser des concerts qui soient accessibles à tout le monde, et qui soient gratuits, ou en tout cas à prix libre, et dans la rue Vilain. Donc les squatteurs des vilains vont ouvrir un café, un bar, qui va s'appeler Le Malfamé, et qui est devenu célèbre. Alors, je vous montrerai à la fin de la présentation, j'espère que je serai dans les temps, mais qui est resté en fait dans la mémoire collective, parce qu'on en parle dans la chanson « Squatte toujours » des Berrues. Donc c'est au bar rue Vilain, Le Malfamé, que sont créés les premiers... et le festival Rock in Squat, qui est inspiré, en tout cas probablement, des festivals rock contre le racisme, qui sont à la même époque à peu près à la Goutte d'Or, et puis inspirés eux-mêmes, c'est quelque chose qui est importé à partir de l'Angleterre. Mais donc l'idée, c'est de développer au sein d'un territoire diverses activités, c'est-à-dire donc le squat, c'est pas seulement du logement, mais c'est aussi un lieu collectif qui est partagé et qui est ouvert à tout le monde et qui permet de faire toutes sortes de choses. Donc la violation, c'est pas seulement la violation de domicile, mais c'est aussi le renversement des codes et surtout l'ouverture de ces codes et l'accessibilité à tout le monde. J'avais un extrait audio qui s'est égaré dans mes transferts d'informatique. Encore une preuve de ma maladresse. Mais du coup, je vais vous le lire. Alors, c'est un extrait pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du punk. Le label Visa, qui est créé en 81 aussi. Donc c'est un label de cassettes qui vont en fait enregistrer les premiers concerts. Ce sont les premiers en tout cas à enregistrer des concerts et à organiser la diffusion de ces concerts punk dans un cercle de plus en plus élargi. Alors la première cassette du label Visa s'appelle Passeport pour l'exportation. Et sur cette cassette, donc il y a des concerts qui ont eu lieu dans les squats de Couronne, rue des Couronnes et puis à Palikao, etc. Et y a quelques extraits de témoignages de squatteurs qui font partie donc de ce secteur à Belleville. Alors je ne sais pas si parmi ceux qui parlent, il y en a effectivement qui ont vécu au squat des Vilains, mais en tout cas l'expérience qu'ils racontent, elle est tout à fait valable. Alors ça, je suis désolé parce que du coup, ce qui était intéressant, c'était aussi la manière dont il parlait. Donc, je vais essayer de le rendre le plus fidèle possible. Donc, extrait de cette cassette. Bon, il fait nuit, je me balade, j'arrive, j'ai repéré la baraque. Ça fait déjà pas mal de temps. J'étais au cadastre, j'ai repéré le propriétaire. Alors, avec un copain, on se pointe. Bon, il est tard. Clan d'eau, on se balade, on n'a rien dans les poches. Enfin, beaucoup de choses. On arrive, la porte solide, on n'en sait rien. Un petit coup de pied de biche, vas-y machin, il y en a un qui pousse, un coup de pompe, ça s'ouvre. Vite fait, on sort du sac un petit verrou qu'on a été gentiment se réapproprier dans le magasin d'à côté, et vas-y, on remplace ça. On entre, le copain, c'est un prestidigitateur, il sort de sous son blouson un vieux disjoncteur, piqué dans la maison vide d'à côté, et il installe tout. Bon, ensuite, on monte dans les étages, etc. Yalo, ça marche et tout. Ouais, ouais. On l'avait déjà vu un peu avant, remarque. Bon, on descend dans les égouts, on regarde, on visite tout, etc. C'est bon. Et puis, bon, on passe la nuit, on sort les duvets qu'on avait amenés avec nous, et puis on piote, et puis voilà. Et puis, on a ouvert un squat. C'est encore, voilà, c'est encore complètement valable, et ça marche comme ça encore aujourd'hui. On est d'accord. Les vilains, donc, en dehors de cette maîtrise, en tout cas, de la pratique de l'ouverture d'un squat, tel que on peut le croire à partir de ce témoignage, ils vont. Alors, il y a un photographe dans un article du journal qui décrit les squats tels qu'il peut le voir. Il décrit de vieilles bâtisses grises, pas plus moches que celles qui les entourent, hein, comme je disais tout à l'heure. Tout est calme, c'est une maison normale, à la seule différence peut-être que sur la façade du 1 rue Villain, dont 4 appartements sont squattés. Donc pas l'immeuble entier, ça aussi c'est intéressant, parce que les squatteurs, le groupe des vilains, va partager le bâtiment avec des locataires qui n'ont pas été expropriés et qui n'ont pas encore été évacués. Les squatteurs inscrivent le calembour qui devient leur pseudonyme, donc dans la rue Villain, ils deviennent les vilains, par lequel le groupe va signer de nombreux tracts et déclarations dans la presse. Ils affichent la couleur et ils accrochent un drapeau noir orné d'une tête de mort, encore, tête de mort, donc symbole punk s'il en est un. Pirate aussi, oui, mais réapproprié en tout cas par les punks et détourné, etc. Un autre drapeau rouge et noir, et plus tard une banderole en soutien à Swedi Darnosc. Je pourrais montrer des centaines et des centaines d'images de squats qui montrent, mais ça sert à rien. La vie des vilains, donc, elle commence en novembre 1980, au numéro 1 de la rue. Elle s'étendra par alternance au numéro 3 et au numéro 5, dans lequel a lieu une permanence juridique quotidienne de soirée, donc permanence tous les soirs. Permanence juridique d'information, donc, pour, voilà, dans l'objectif, je rappelle la phrase que j'ai citée tout à l'heure, du local sur le quartier à l'international, c'est-à-dire, dans l'objectif, si les gens viennent nous voir sur le modèle inspiré du modèle anglais, si les gens viennent nous voir et nous posent des questions, bah, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut ouvrir un squat, quels droits on a, quels risques on encourt. Les vilains, parmi d'autres, vont organiser ça. Il faut savoir que ça s'est développé beaucoup, beaucoup par la suite, et ça s'est un peu normalisé, même, entre guillemets, ces conseils juridiques. On en trouvait déjà dans des journaux alternatifs, mais à ma connaissance, les vilains sont les premiers à vraiment faire une permanence juridique pour ça. Donc j'ai parlé du fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de squats, finalement, dans ce secteur à Belleville, avec la particularité que ceux du 20e... Ils mélangeaient, enfin, il y avait beaucoup de groupes très très différents les uns des autres, qui se mélangeaient, qui se côtoyaient, qui se bastonnaient aussi parfois. Mais c'est moins vrai en fait pour les autres arrondissements à Paris, où les squatteurs avaient plus une identité particulière. Dans le 20e, il y avait des groupes vraiment qui cohabitaient avec plus ou moins de pacifisme, mais c'est une particularité à Belleville. Le groupe des vilains, c'est un groupe d'une une vingtaine à une trentaine de personnes, à partir en tout cas de recoupement des archives que j'ai pu trouver. Il semblerait qu'il y aurait qu'une petite dizaine d'individus qui aient vraiment habité en permanence, enfin entre guillemets en permanence. Oula, il va falloir que je me dépêche. Et pour question de statistiques, il y aurait eu que 3 femmes seulement parmi ce groupe. Les vilains sont des jeunes adultes, entre 18 et 25 ans, qui se déclarent proches de la mouvance libertaire, plutôt autonome, mais qui refusent, en fait, rejettent l'étiquette, justement, les autonomes, avec ce qu'on pouvait mettre à l'époque, fin des années 70, début des années 80, qui étaient les totos, les autonomes. Cela dit, ils mettent vraiment un contenu, une identité anarcho-autonome dans leur squat. Pour un historien, en fait, et c'est aussi vrai pour l'histoire des squats en manière générale, c'est aussi vrai pour l'histoire de groupe punk d'ailleurs, la mort du groupe, donc les vilains, ça signifie aussi la mort du lieu ou inversement. En fait, la mort du lieu, c'est-à-dire au moment où ils vont être expulsés, le groupe des vilains se dissout, c'est-à-dire même s'ils squattent ailleurs, ce qui va être le cas, ils ne sont plus déclarés comme les vilains. Alors, le rapprochement avec l'étiquette punk. Il y a quelques signes d'auto-identification, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est évidemment les pratiques qu'on peut y associer et qui vont pratiques qu'on pourrait qu'on peut donc rattacher à la aux particularités donc du punk. Donc première violation le lieu, je reviens pas là-dessus. Pour en faire quoi ? Je les cite, hein, c'est une réappropriation du territoire pris au pied de la lettre directement sans s'embarrasser de fioritures juridiques, d'autorisation ou de sauf-conduit. Bon, classique hein, finalement le discours. Et multiplication des pratiques, là c'est un slogan qu'ils ont beaucoup utilisé, qu'on retrouve dans beaucoup de tracts qu'ils ont diffusés, soyons incontrôlables. Et ce qu'on voit, eh ben, c'est finalement c'est quelqu'un qui saute par-dessus les portiques du métro parisien. Il n'y avait pas les portes encore à l'époque. Donc c'est la généralisation de toutes les pratiques illégales. Puisque j'ai pas beaucoup de temps, je vais aller passer vite fait sur un peu le diaporama en essayant de parler. Jeu de vilain, évidemment, la presse s'en donne à cœur joie de trouver des jeux de mots pour utiliser ce que faisait la... Voilà, rue poubelle et immeubles désaffectés, voilà l'anéantissement. C'est dans ce cadre délicieusement sordide que les squatteurs de la rue Vilain dans le quartier de Belleville se sont empoignés aux policiers et CRS samedi soir. La chanson des Bérues, ils en parlent aussi. Hein. Il y avait des patrouilles policières régulières en fait, dans le quartier parce que, évidemment, les squats sont très sévèrement... surveiller, même si en tant qu'historien, j'ai eu accès à quasiment rien auprès des renseignements généraux, parce que c'est pas quelque chose évidemment auquel ils donnent accès facilement. Mais je sais par exemple qu'ils ont fait une perquisition au mois de juin 82 et qu'ils trouvent, alors c'est rigolo hein, dans le compte rendu, je trouve ça d'une image qui représente assez bien le. Ce qu'on pourrait rapprocher de, enfin, ce qu'on pourrait imaginer dans les, se représenter quand on parle des punks. Alors, rapport de perquisition, ils sont découverts donc chez les vilains, un pistolet mitrailleur, en fait, plutôt un jouet sophistiqué de grandeur réelle, 13 bouteilles contenant de la grenaille de fer, une substance d'explosif en cours de vérification, 2 manches de pioche, 2 haches, 2 chandeliers d'église, 2 cocktails Molotov, 6 crucifix, 7 crânes et 9 os humains. Provenant probablement d'une violation de sépulture, une somme de 1700 francs en argent liquide, découverte dans la doublure d'un fauteuil. 1700 francs. Alors si, à l'époque, 1700 francs, c'est énorme, je pense, comme, ouais, comme somme d'argent, c'est énorme. Alors, par rapport à tous ces objets, donc, évidemment, on peut penser à la, enfin, ça fait penser à la... Il y a la question qui s'est posée, là je montre quelques images de Belleville, hein, mais je passe rapidement. Il y a la question qui s'est posée, notamment dans la presse, et à laquelle je me suis intéressé aussi, c'est le rapprochement entre donc, les différents groupes de squatteurs, et notamment les liens avec un groupe dont on a beaucoup parlé à l'époque, qui n'est pas complètement tombé dans l'oubli, Action Directe, qui, alors pour refaire rapidement une chronologie, hein, donc Action Directe a eu une existence entre 79 et 80, il y a eu plusieurs incarcérations, et puis à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, une amnistie générale qui est décidée, et donc les Rouillant et Ménigon qui sortent de prison et qui vont ouvrir des squats ici, bah, pas loin d'ici, rue de la Charbonnière, à la Goutte d'Or, et en solidarité avec les travailleurs turcs, etc. Et alors pourquoi les liens, pourquoi je me pose la question des liens entre Action Directe et les vilains ? Oui, une minute, merci. bon, rapidement, là, vous voyez encore des images, là, préparation de l'arrivée. Fête internationale des squatteurs, voilà, les vilains, ils ont fait pas mal de fêtes, de festivals, etc. Ils ont fait venir des incarcérations. Il y a une personne qui est intéressante, qui est encore vivante. Je n'ai pas interviewé, que je pourrais faire, mais voilà. Alors, lien entre... Action Directe et les vilains, et ben c'est cette personne-là, Farid. C'était son surnom, en fait, qui signait aussi des articles dans un journal bah, de la Goutte d'Or, qui s'appelle Sans Frontières. En fait, son nom, c'est Lawari Benchellal, qui signait aussi des articles sous le nom de Aslak, Sans Frontières. Et en fait, il était lié au groupe du 20e. Il a interviewé les vilains et il aurait été en fait, il aurait fait partie plus ou moins du groupe d'Action Directe, mais dans le sens où il était chargé de récolter de l'argent et par l'échange de chèques, les traveler chèques. Et en fait, il est retrouvé en Finlande, enfin il est retrouvé, on suppose qu'il a été assassiné en fait dans un commissariat à Helsinki. Et donc le groupe des vilains, dans un journal qu'ils ont publié, les vilains ont publié deux journaux. Il y en a un qui s'appelle le Virus et l'autre Sans droit ni titre. Et donc dans un de leurs journaux, ils rendent un hommage à Farid, donc qu'ils prennent vraiment comme un ami. Donc pour revenir au rapport de perquisition, on peut évidemment se poser la question, est-ce que les squatteurs de manière générale à cette époque-là, ou en tout cas ceux qui avaient vraiment un affichage politique très clair, ont pu servir de repères, en tout cas de cachettes d'armes, ou en tout cas ou pour faire des transferts de sommes d'argent au service de la cause d'Action Directe? C'est une question qui reste ouverte parce que, on va dire, il n'y a rien dans les archives qui permet de vérifier ça, et moi en tout cas j'ai pas conduit d'entretien dans ce sens-là non plus. Mais voilà, c'est une question ouverte à poser. La couverture du journal Le Virus, le squatter, journal des squatteurs du 20e. Et alors, je vais juste quand même pour conclure, mais j'ai présenté que un tiers de ce que je voulais dire. Allez, deux petites choses. La première, c'est un extrait du film Ciao Pantin. C'est la scène.
Elle est qui? Vous croyez qu'on allait vous laisser comme ça?
Comment on est en... Je m'arrête là, si vous avez entendu, il dit « Allez, viens, Mickey, on s'arrache ». Voilà, et là, c'est pas à ça que je voulais venir, en fait. Donc Mickey, qui tient aujourd'hui un bar... alors, je ne l'ai pas rencontré, hein, mais je sais qu'il tient un bar à Cantala. Et alors, j'avais encore un extrait d'interview, en fait, parce qu'il explique lui-même, c'est lui qui a organisé, en fait, le casting, en tout cas, qui s'est porté garant auprès de Claude Berry, de toute la présence de tous ces punks dans ce film-là, mais aussi dans d'autres films de l'époque. Et donc, il faisait partie du groupe des squatteurs, des vilains de l'époque. Alors, je peux le mettre en toile de fond, juste pendant qu'on parle. Pour les questions éventuelles, l'interview, donc l'extrait d'un Ciel Montmardi, je ne sais plus si c'est 85 ou 86, où il y a Gogol Premier, François Agi Lazaro et les Berrues, et donc qui termine.
Je crois que c'est pas si simple que ça.
Institutions rock qui donneront à manger aux Polonais ou qui donneront la liberté aux étudiants chinois. Et je trouve ça tout à fait consternant et de
mais
s'imaginer
avec
qu'avec
les squats,
leur
on donne
façon.
À tout le monde.
Mais monsieur, le squat, ce n'est pas l'apothéose de la condition humaine. Les squats, il faut en sortir et les supprimer les uns après les autres.
Non, dans le public, soyez gentils, ça sert à rien, vous n'avez pas de micro et ça fait.
Tout ce que vous racontez, c'est une espèce de petit cinéma où, avec votre rock, vous allez changer l'humanité. Alors là, vous croyez au Père Noël. Vous croyez au Père Noël. Mais oui.
Je coupe avant la chanson, après je la laisserai. Juste pour dire que moi j'ai longtemps cru, en fait, au tout début où j'ai commencé à chercher vraiment sur les squats des vilains, j'ai longtemps cru que les Berus en avaient vraiment fait partie, y avaient habité, etc. Alors il semblerait que ça ne soit pas vrai, même s'ils en parlent beaucoup, mais comme ils ont fait certains des concerts de la première époque Berus au squat des vilains, c'est comme ça que ça leur est resté dans la mémoire. Et je signale juste, c'est un épisode que je pourrais raconter longuement, mais Rémi Pépin l'a fait très très bien, il ouvre son livre là-dessus. En fait, donc le livre Rebelle qui est sorti en 2015, je crois, il ouvre le livre en fait sur l'épisode du concert, d'un concert qui a lieu au Malfamé. Et je mets quand même la chanson en toile de fond.
Au Père Noël. Oui.
Te souviens-tu encore?
Ouais, mais en fait. Donc là, malheureusement, on n'a plus le temps pour les questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que vous êtes tous conviés à venir manger juste au-dessus et les questions, on les pose à ce moment-là. Mais si vous voulez, on peut déjà un peu les poser pendant la chanson.
C'était juste une précision, puisque comme certains dans la salle, je pense, on a joué au squat des vilains. En tout cas, moi, j'ai au moins fait un concert là-bas et aux Cascades et au Panoyo et à Palikao, les autres endroits. Je pense que par contre le lien politique est assez fumeux hein, dans ce qui est expliqué
par rapport à Action Directe,
par rapport aux autonomes et Action Directe. Mais il y a des affirmations moi que je trouve un peu contestables. Alors il y a un lien, c'est sûr, le lien international qui est affirmé, voir ce qui se passe à Londres du côté de King's Cross avec des groupes qui commencent à arriver sur la scène comme Crass, et du côté de l'Allemagne et du côté des crackers hollandais, ok. Il y a un autre pays qui n'est pas cité mais qui est extrêmement important dans l'histoire et dans les liens, c'est l'Italie, puisqu'à la suite de du mouvement d'occupation d'usines et d'occupation de lieux en Italie, se sont créés des centres sociaux occupés partout où se sont développées des activités type les vilains à puissance 10, c'est-à-dire là où c'était permanent juridique. Eux faisaient aussi médecine gratuite pour les prolos du quartier, campagne contre la consommation d'héroïne et tout pour éviter, boutique de labels de disques indépendants et des choses comme ça. Et ils organisaient des concerts, ils étaient dans toutes les manifs politiques contre les politiques du gouvernement Prodi à l'époque, hein, et Berlusconi ensuite. Et il y avait un lien très fort entre les squats et l'idée prenons la ville et on fait pas que de la musique, on est sur le terrain social partout. Et les vilains, ça a un peu été ça sur Paris. Voilà. Mais il y a eu un exemple à peu près équivalent sur Rennes qui a duré moins longtemps. Mais
à la même époque ?
Un peu plus tard.
Ouais, voilà.
Mais voilà, mais c'est vrai que ça ne s'est pas développé comme nous, pour les acteurs, on pensait que ça devait se développer.
Merci beaucoup. Donc on continue la discussion en haut, mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on remercie Baptiste pour sa présentation qui était très intéressante. Et qui a ouvert des pistes sur notamment différents liens avec d'autres formes de violence. Donc merci à lui.